France Culture.
Les nuits de France Culture. Jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Adolescent, dans le Jura, Paul-Émile Victor rêve de la Polynésie et des régions polaires. Il se plonge dans la lecture de grands récits d'aventure, d'exploration et d'ethnologie, griffonne d'improbables itinéraires sur la carte du Pacifique et celle des territoires du Nord-Ouest canadien. En 1934, alors qu'il travaille au Musée de l'Homme, il rencontre le commandant Charcot et le convainc de l'emmener dans sa prochaine expédition polaire. Paul-Émile Victor embarque à bord du Pourquoi pas. Charcot le dépose sur la côte est du Groenland, où il séjourne durant une année chez les Inuits. Cette expédition est la première d'une longue série à la conquête des pôles, mais aussi en Laponie et en Alaska. Mobilisé dans la marine française en 39-40, il s'engage en 1942 dans l'US Air Force comme lieutenant-instructeur, pilote et parachutiste, puis commande une escadrille de recherche et sauvetage des pilotes perdus en milieu polaire. Démobilisé en 46, Paul-Émile Victor crée, après-guerre, les expéditions polaires françaises de recherche scientifique en Arctique et Antarctique, qu'il dirigera jusqu'en 1976. Cet ambassadeur de l'aventure a consacré sa vie à l'exploration, l'ethnologie et la défense de l'environnement. Il est l'auteur de près de 40 ouvrages scientifiques, techniques et de vulgarisation. Lorsqu'en 1956, Paul-Émile Victor est l'invité de Luc Bérimont pour Les Chemins du Jour, celui qui, jeune ethnologue, voulait étudier les Polynésiens, ne connaît toujours pas l'Océanie, qu'il ne découvrira que 2 ans plus tard. En 1977, il réalisera son rêve d'adolescent en se retirant sur le Motu Tane, l'île de l'Homme, où il vivra jusqu'à sa mort en 1995. Selon ses dernières volontés, son corps a été immergé en haute mer, au large de Bora Bora.
Dans le cadre de l'émission « Les chemins du jour », Luc Bérimont présente Paul-Émile Victor et les expéditions polaires. Un film enquête radiophonique réalisé avec le concours de Jacques Bureau et Francis Gastambide. Mise en onde, Bernard Gandré-Réti. Collaboration artistique, Hans Pies.
C'est Luc Bérimont qui vous parle. Mesdames et messieurs, ceux et celles d'entre vous qui me font l'amitié de suivre cette série d'émissions ont entendu, au cours des précédents dimanches, Alexandre Alanoff, secrétaire général de la Société astronautique et l'un des quelques rares spécialistes internationaux des relations interstellaires, commenter le prochain voyage que les hommes ne sauraient manquer de faire dans les planètes. Ils ont, dans un genre différent, vu surgir dans un réseau de confidences et de sourires les traits d'un Michel Simon inconnu. Avant François Sagan, qui, j'ai la joie de vous l'annoncer, sera présente sur cette antenne dimanche prochain 26 août, je vous propose de consacrer à présent une heure de votre vie à un homme parfaitement exceptionnel, un homme d'une taille et d'une dimension peu commune, le célèbre explorateur Paul-Émile Victor, dont le nom est indissolublement lié à celui des expéditions polaires françaises, et que je voudrais pouvoir qualifier du beau nom d'aventurier, dans le sens de coureur de pistes et d'aventure, aventurier de la science en même temps, puisque toute une partie de son énergie se trouve orientée vers la recherche en ce domaine. Nous sommes au soir d'une journée d'été, et ce qui, pour beaucoup d'entre vous, aura été un dimanche de vacances, s'achève. Soirée de dimanche d'été. Les premières étoiles commencent de briller sur vos têtes, au-dessus du toit qui vous abrite. Devant vous, l'herbe de la prairie, de verte, devient noire. Ou peut-être ne distinguez-vous plus la montagne. Ou peut-être ne voyez-vous plus le sable de la plage. Mais la mer, elle, continue de rouler ses tonneaux à l'infini de cet espace liquide au bord duquel vous vous êtes baigné tout à l'heure en riant. Tiens, on danse quelque part au loin. Vous percevez les échos d'un orchestre, assourdi par la distance. Eh bien, cela tout de même que le feulement des trains, le rugissement des voitures, les stridences du jazz, c'est la chape de notre civilisation. Ah, comme un bon bain d'espace et de neige, par exemple, nous revigorerait. La neige, c'est quelque chose de très précis. C'est le froid, c'est le vent, c'est la glace. Une bouffée des quatre saisons de Vivaldi. La neige, c'est immédiatement le cliché, le souvenir de Noël, la carte postale illuminée.
Et nous sommes au mois d'août. Au mois d'août.
Cet homme marche de long en large dans sa bibliothèque. Il trouve un petit livre à la couverture blanche et jaune. Les poèmes esquimaux de Paul-Émile Victor. Il tourne les pages et le voici transporté loin, très loin. Là-bas où luit la neige, là-bas où souffle le vent aigre.
Les poèmes esquimaux. Quand le ciel au nord s'assombrit, quand le ciel au nord se couvre, comme d'une vareuse, comme d'une vareuse. Quand la lumière décroît, quand la lumière disparaît, comme sous une vareuse, comme sous une vareuse. Je pense à mes petits-enfants, je pense à mes pauvres enfants, et tout est sombre, comme dans une vareuse, comme dans une vareuse.
Et voilà, le départ est donné. Cet homme est déjà dans le Nord, dans le Grand Nord, dont le paysage luit dans sa tête. Le départ a été facile, car c'est un voyageur ailé. Il est d'autres voyageurs, pourtant, à qui l'aventure n'est donnée qu'au terme d'un combat, d'une bataille. Encore que la fièvre initiale ait été contractée dans un livre. Paul-Émile Victor, par exemple, qui nous dit... Comment s'est éveillée pour lui, dans son adolescence, l'envie de plonger dans l'inconnu pour trouver, ainsi que le dit Baudelaire, du nouveau.
Du nouveau, Du nouveau. Du nouveau. Du nouveau.
Une première question, Paul-Émile Victor. Comment avez-vous été amené aux expéditions polaires?
Eh bien, je crois que c'est essentiellement par goût. Je dois dire pour la vérité que, alors que j'étais tout jeune, j'ai toujours été attiré par le dépaysement, par le voyage, et plus particulièrement par la Polynésie. Quand j'avais 15 ans, j'avais lu déjà un certain nombre de livres sur la Polynésie, un certain nombre de livres aussi sur les expéditions polaires. Et à la fois les pôles et l'océan Pacifique et ses îles m'attiraient au point que j'avais une documentation de cartes et de livres sur les deux sujets. Entre les deux, j'étais très certainement plus attiré par l'Océanie que par les régions polaires.
Mais de toute manière, vous portiez le goût de l'exploration. Et si je vous ai bien compris, Paul-Émile Victor, ce goût de l'exploration, vous ne le portiez pas, comme je le croyais tout d'abord, en scientifique. C'est-à-dire que j'avais pensé que c'était d'abord votre spécialisation professionnelle qui allait vous mener à l'exploration, et je m'aperçois maintenant que c'est plutôt une voie littéraire qui vous y a conduit.
C'est parfaitement exact. Ce n'est pas parce que j'ai fait telle et telle étude que je suis, pour la première fois, parti pour une expédition polaire, mais je suis parti dans une expédition qui s'est trouvée être polaire parce que j'ai fait des études dans ce sens et dans ce but. Après ces études d'ingénieur à l'École centrale de Lyon et à l'Université de Lyon, puis à l'Université de Paris, j'ai fait pendant 3 ans un stage dans l'industrie paternelle dans le Jura à Lons-le-Saunier. C'est vous dire que je n'étais pas préparé autrement que par l'esprit et par mon goût à des voyages d'exploration. Et si, après ces 3 années, je suis revenu à Paris faire des certificats de licence, lettres et sciences, de même qu'un diplôme d'ethnologie, c'est avec cette idée particulière de me faire un bagage qui justifierait un départ.
Par conséquent, il y a eu la première exploration. Et j'imagine que dans vos souvenirs, rien ne pourra remplacer en intensité cette première exploration, cette première fois. Comment l'avez-vous abordée?
D'abord, j'ai écrit à Charcot pour lui demander s'il m'emmènerait au Groenland, puisqu'il allait au Groenland. Et j'ai, en l'espace de 48 heures, reçu une réponse me disant que Charcot envisagerait volontiers une participation éventuelle à sa campagne prochaine, que pour l'instant la campagne prochaine, c'était en 1934, n'était encore qu'ébauchée dans son esprit, mais que si l'occasion se présentait, Charcot me réécrirait. Sur l'instant, je n'ai pas compris que c'était aimablement me dire que, oui, il reçoit beaucoup de candidatures de ce genre. Aujourd'hui, que je reçois moi-même un certain nombre de candidatures, je me rends compte que c'est la lettre aimable que je répondrai si la candidature ne me paraissait pas suffisamment étudiée. Néanmoins, c'est à cause de ça que je me suis mis à étudier au Musée de l'Homme ce qui avait été fait sur les Esquimaux de la côte est du Groenland, et je me suis aperçu que si certaines faces de leur culture étaient parfaitement étudiées, comme certaines de leurs croyances en particulier, d'autres, leurs chants, leurs légendes et toute leur culture matérielle, était encore peu connu. On en connaissait les effets, c'est-à-dire qu'on avait étudié, il existait un livre excellent d'un savant danois qui s'appelle Talbitzer, on en avait étudié les outils, mais la culture elle-même n'avait pas été étudiée. Autrement dit, après quelques semaines d'études, je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait encore beaucoup à faire, en particulier chez les Esquimaux d'Angmasalik sur la côte est du Groenland, découvert en 1885 seulement. Alors j'ai réécrit à Charcot en lui disant que je ne lui demandais plus de m'embarquer à bord de son navire pour une campagne d'été, mais de bien vouloir, s'il le jugeait possible, me déposer sur la côte est du Groenland chez ces Esquimaux-là, pour y rester un an et pour étudier pendant un an ces Esquimaux. Alors j'ai reçu une réponse également, 48 heures plus tard, en me donnant un rendez-vous à l'Académie de Marine pour une certaine date. Je passe donc sur certains détails, il s'est passé pas mal de temps entre cette lettre et le moment où j'ai pu voir Charcot. Finalement, j'ai exposé mon plan
à Charcot. Il m'a répondu qu'il n'allait jamais à Angmassalik, que jusqu'à là, il n'était allé qu'au Skoresbisund, que j'avais du culot de lui demander de faire un tel détour sur son programme habituel. Et puis, il m'a regardé pendant un très long silence qui m'a paru éternel. Puis ensuite, j'ai vu un sourire dans ses yeux. Il m'a dit, bon, ben, c'est entendu, je vous emmène. Ça a été aussi rapide que ça. Et c'est ça qui a déterminé, finalement, tout le reste. Tout le reste, c'est-à-dire, depuis 1934 jusqu'à aujourd'hui, toutes les expéditions polaires que j'ai pu faire moi-même ou que j'ai pu organiser moi-même.
Parlons de votre premier contact avec la neige, avec les paysages polaires.
Je dois dire que ce contact ne m'a pas surpris. J'avais vu beaucoup de photographies. Et finalement, quand je me suis trouvé devant les premiers blocs de glace, je les ai vus à peu près comme mon imagination me les avait montrés. Néanmoins, il y a une chose que je n'avais pas imaginée et que je retrouve toujours avec beaucoup d'étonnement, c'est l'odeur, le parfum, je pourrais presque dire, de la glace et de la mer, en lisière de la banquise, le bruit de ces énormes ou de ces tout petits morceaux de glace, le bruissement plutôt les uns contre les autres, et la vie sur la banquise. Non seulement les phoques, mais un nombre d'oiseaux incroyable, car c'est en bordure de la banquise que les oiseaux généralement se tiennent, parce que c'est là qu'ils trouvent leur nourriture. Le premier contact avec les Esquimaux a été très drôle. C'était au large du Skoresbisund, le pourquoi pas s'était battu de nombreux jours dans les glaces pour pénétrer dans le Skoresbisund où il y a une station danoise et un village esquimau à Rosenvinge. Et tout à coup, nous avons vu apparaître un point noir dans les glaces. C'était un esquimau qui s'appelait Joshua, si je ne me trompe, qui venait au-devant de nous en kayak. C'était un Esquimau qui connaissait Charcot et qui, l'année précédente, en 1933, avait confié sa montre à Charcot pour la faire réparer. Et un an plus tard, Charcot arrivant sur son pourquoi pas au Skoresbisund, Joshua, voyant le navire et l'ayant reconnu, avait pris son kayak pour se faufiler à travers la glace pour venir au-devant de nous, pour récupérer sa montre, sans avoir la patience d'attendre que le navire arrivât jusqu'à terre. Charcot l'a reconnu aussitôt, ils se sont congratulés, tapés dans le dos, serrés la main, et Charcot a sorti de sa poche la montre que Joshua lui avait confiée l'année précédente, réparée. Toujours dans les relations que j'ai pu avoir avec eux, je me suis souvenu de cette scène particulière, qui représente d'ailleurs bien ce qu'était Charcot, à savoir un très grand bonhomme. Au cours de cette première expédition, en 1934-1935, nous étions quatre. Mon ami le docteur Robert Gessin, qui avait fait des études d'anthropologie et d'ethnologie également au Musée de l'Homme. Mon ami Michel Pérez, que je connaissais depuis de nombreuses années, car nous étions camarades et amis d'enfance, géologue. Et mon ami Fred Mater, que j'avais rencontré aussi pour la première fois seulement au début de 1934, qui était chargé des équipements, de certains matériels, et en particulier de la photographie et du film. Et c'est lui qui a fait ce film 4 du Groenland, qui a eu avant la guerre un très grand succès. Je l'ai revu encore l'autre jour. 4 du Groenland, que Fred Mater a tourné à cette époque, ne date absolument pas. Il aurait pu être tourné l'année dernière. Donc au bout de cette première année, passée à Angmassalik sur la côte est du Groenland, avec Gessin, Pérez et Mater, nous sommes rentrés en France, et aussitôt, nous avons fait des plans pour une nouvelle expédition. Il s'agissait cette fois-ci de traverser la calotte glaciaire du Groenland d'ouest en est, et ceci plus particulièrement pour nous permettre d'être avant l'arrivée du premier bateau sur la côte orientale du Groenland, pour permettre à Jessin et à Pérez de compléter certains travaux, et pour moi-même d'y être, puisque je devais y rester plus d'un an. Voilà pourquoi la côte est du Groenland est fermée par la banquise presque toute l'année, et on ne peut y pénétrer, sauf année exceptionnelle, qu'un mois ou un mois et demi sur 12. La côte ouest du Groenland, au contraire, est ouverte à la navigation presque toute l'année à cause d'une branche du Gulf Stream. Il nous paraissait par conséquent logique de partir beaucoup plus tôt de la côte ouest et d'arriver à la côte est avant l'arrivée du premier navire, nous donnant donc autant de semaines, peut-être de mois, de plus de travail. De plus, il n'y avait eu qu'un petit nombre de traversées du Groenland en traîneau à chien et à pied depuis 1888, date de la première expédition transgroenland de Nansen. Et l'exploit sportif, je devrais plutôt dire le côté sportif, nous intéressait, nous amusait. À Jessin et à Pérez, Mater à cette époque est reparti avec Flournoy dans l'Amazone. À Jessin, à Pérez et à moi-même se joint alors un de nos amis danois, Egil Knut, dont c'était la première expérience polaire et qui depuis a dirigé de nombreuses et grandes expéditions danoises au Groenland. Cette deuxième expédition était donc la traversée du Groenland d'ouest en est à travers cette calotte glaciaire qui couvre la totalité du Groenland, ou presque la totalité, les 9 dixièmes. Or, vous savez que le Groenland est 5 fois grand comme la France, et à l'endroit où nous traversions, la distance totale était de l'ordre de 800 km.
J'imagine que votre connaissance des populations esquimaux se développait, que vous entriez un peu plus profondément dans leur psychologie et dans leurs coutumes. Que voyez-vous ?
Quand nous sommes arrivés sur la côte est du Groenland après la traversée du désert de glace, nous avons retrouvé les amis esquimaux qui nous attendaient, avec lesquels nous nous étions entendus pour qu'ils viennent nous chercher à l'endroit où nous devions arriver. Nous les connaissions déjà depuis un an. Mes camarades y sont restés quelques mois d'été, puis je suis allé plus au nord, à 250 km au nord environ, dans un petit fjord qui s'appelle Karlsvatjak, hiverné pendant un an dans une famille esquimau par laquelle j'ai été complètement adopté. Au cours de cette année, je n'ai vu que pendant 2 jours des hommes blancs. J'ai donc vécu complètement avec eux comme un fils de la famille. Et si je fais ce petit préambule pour répondre à votre question, c'est que ma réponse ne sera pas simplement une réponse de contact superficiel, ne sera pas seulement la réponse, valable me semble-t-il cependant, d'une impression que l'on a au bout d'une année vécue près des Esquimaux, mais un groupe d'hommes blancs continuant à vivre comme ils vivent généralement dans une expédition, mais proche des Esquimaux. Par contre, ce sera une réponse de l'expérience que j'ai faite, que je ne suis pas seul d'ailleurs, loin de là d'avoir faite, d'avoir vécu pendant de nombreux mois, en réalité pendant près de 12 mois, entièrement dans une famille esquimau, adoptée par eux, à tel point qu'au bout de quelques mois, ils ne m'ont plus du tout regardé comme un katuna, c'est-à-dire comme un homme blanc. Ce que j'ai vu, ce que j'ai, non pas découvert, mais découvert pour moi, oui, bien sûr, c'est que les esquimaux sont des gens extrêmement proches de nous. On peut attendre d'eux un certain nombre de réactions psychologique, mental, moral, sentimental, très semblable aux nôtres. Ils sont ouverts, accueillants, hospitaliers, et par conséquent, on ne se sent pas du tout dépaysé avec eux. On se sent tout de suite de plein pied sur les qualités profondes de l'homme. Je ne parle pas de l'apport extérieur qui est la culture, et encore faudrait-il s'entendre sur ce point, car notre culture, c'est sur un certain point, un certain nombre de points, leur culture est sur un certain nombre d'autres points. Non, je parle des qualités profondes de ce qui définit l'homme. Très semblable à nous, et par conséquent très proche de nous. Je dois dire que, de plus, j'ai découvert chez eux un certain nombre de qualités qui, parfois pour nous, nous paraissent des défauts, que nous n'avons plus, que nous n'avons peut-être jamais eus, et qui font que leur contact est fort agréable et plein d'enseignements. Si vous me permettez, je vous raconter une petite histoire. On a souvent lu, et on continue parfois encore à lire, que les Esquimaux sont menteurs. En effet, ils sont menteurs, mais si l'homme blanc qui les décrit prétend qu'ils sont menteurs, ça veut tout simplement dire qu'ils mentent pour des raisons qui ne nous sont pas apparentes à nous. Autrement dit, ils mentent pour des raisons qui ne sont pas les nôtres. S'ils mentaient pour les mêmes raisons que nous, on les considérerait comme menteurs, mais on ne les considérerait pas comme plus menteurs que nous. Car tout de même, nous sommes menteurs aussi. L'histoire que je voulais vous raconter est celle-ci. Nous étions depuis quelques semaines, là, lorsque tout à coup, un matin, nous nous sommes aperçus qu'une paire de skis nous manquait. Il y avait environ une trentaine de familles esquimaux autour de nous, avec les quelques gestes et les quelques paroles qui étaient à notre disposition. Nous avons fait une enquête pour savoir où se trouvait la paire de skis qui avait disparu. Toutes les réponses étaient négatives. Personne ne savait où était passée la paire de skis. Et environ trois semaines plus tard, un beau jour, en entrant dans une des quelques 10 ou 15 huttes qui étaient là, j'ai vu la paire de skis au milieu de la hutte, sous la plateforme principale, c'est-à-dire à l'endroit, en dessous de l'endroit où vivait le chef de famille qui avait manifestement chippé la paire de skis. Or, dans cette hutte, il y avait facilement une vingtaine de personnes, 3 ou 4 familles, qui avaient vu cette paire de skis pendant ces 15 jours ou 3 semaines. Comme tout se sait, en pays esquimaux comme chez nous d'ailleurs, l'ensemble de ce groupement, de ce petit village, avait su le jour même où la paire de skis avait disparu, qui l'avait chippé et où elle se trouvait. Pourtant, les uns comme les autres nous avaient tous répondu « Nadewara », ça veut dire « je ne sais pas où se trouve la paire de skis ». L'homme qui nous avait chippé la paire de skis et qui l'avait chippé pour la garder, qui nous avait donc répondu qu'il ne savait pas où était la paire de skis, était un bon menteur, car ses motifs nous sont perméables. Nous savons pourquoi il a menti. Il a menti parce qu'il voulait garder la paire de skis qu'il avait chippé. Mais les autres, savez-vous pourquoi il mentait? À notre point de vue, il mentait. Pourquoi il nous avait dit qu'il n'avait pas vu la paire de skis alors qu'il savait parfaitement où elle était? Tout simplement parce que pour un Esquimau, ce qui se passe chez le voisin ne le regarde pas. C'est une façon de mentir, me semble-t-il, dont nous pourrions aisément nous inspirer.
Mais vous avez publié par ailleurs, Paul-Émile Victor, des poèmes esquimaux. Comment les avez-vous recueillis?
C'est au cours de cette, non pas troisième année, mais enfin du deuxième hivernage, troisième expédition, que j'ai pu les recueillir. J'ai fini par parler évidemment l'esquimau couramment, puisqu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. D'abord aussi, c'était un but essentiel pour étudier une civilisation, il faut bien parler la langue. J'ai fini par parler la langue de la côte est du Groenland tout à fait couramment, ayant vécu avec eux, vivant avec eux. J'entendais donc beaucoup de choses, beaucoup de récits, beaucoup de légendes, et j'ai pu enregistrer et écrire un certain nombre de choses sous la dictée, et en particulier des poèmes esquimaux sous la dictée. J'en ai recueilli beaucoup. La traduction en est extrêmement difficile. Elle est d'autant plus difficile qu'il n'est pas possible, par exemple, de penser en français, en anglais ou en allemand, et de traduire en esquimau, car l'esquimau ne comprend pas. Il faut d'abord que la forme grammaticale esquimau, qui est agglutinante, alors que notre forme grammaticale est constructive, il faut d'abord que la forme grammaticale soit habituelle à notre esprit, pour pouvoir commencer à se faire comprendre par les esquimaux. Vous imaginez alors qu'un poème, pour être traduit, alors qu'il s'agit d'une langue agglutinante, et qu'il s'agit d'idées poétiques, et d'idées poétiques qui ne nous sont pas familières, bien entendu, la traduction d'un tel poème est une chose extrêmement difficile. J'ai donc d'abord traduit, non pas du mot à mot, mais je devrais plutôt dire des périphrases pour des mots, puisque chaque mot esquimau souvent nécessite des périphrases. Ça m'a permis d'avoir le sens d'ensemble. Comme par ailleurs, je savais à quoi il était destiné, que je connaissais le rythme de ce poème, de ces poèmes, la façon dont ils étaient dits, les buts qu'ils devaient atteindre, j'ai recréé les poèmes en essayant de garder ce rythme, sa fraîcheur d'idées, la répétition qui est si jolie chez eux en particulier, tout en essayant de les rendre agréables à la lecture, aussi bien qu'au son en français. Et j'ai même essayé, je ne sais pas si j'y ai réussi, de recréer cette répétition, ce rythme des paroles. Autrement dit, les traductions dont vous parlez ne sont pas réellement des traductions. Ce sont des adaptations extrêmement souples et larges du texte d'origine. D'ailleurs, dans l'introduction à cette petite plaquette, je dis bien qu'il s'agit de ça et qu'il ne faut pas se baser sur ce texte comme sur un texte scientifique. L'esprit y est, le rythme y est, le sens général y est. Ce n'est pas une traduction.
Et la musique, car vous avez ramené de nombreux enregistrements.
Nous avons ramené en effet pas mal d'enregistrements qui se trouvent aujourd'hui au Musée de l'Homme, ainsi qu'au Musée de la Parole et du Geste. Eh bien, la musique est assez décevante pour une oreille européenne. Elle est relativement assez monotone. Si je devais comparer, et j'aime pas beaucoup comparer, mais ça donnera tout de même une idée, et si je devais comparer cette musique à une musique quelconque, je dirais qu'elle ressemble de loin, mais qu'elle ressemble tout de même vaguement, aux mélopées arabes, avec, bien entendu, des nuances de ton qui sont différentes des nuances de ton des mélopées arabes. Il n'y a pas beaucoup de variété entre les différents morceaux musicaux, mais après en avoir entendu beaucoup, on se rend compte que telle mélodie est plus belle, c'est-à-dire qu'elle se rapproche davantage du standard, de l'idéal esquimau, que telle autre. Mais il faut en entendre beaucoup.
Et dans quelles circonstances les Esquimaux jouent-ils de la musique ?
Actuellement, eh bien, je crois que c'est essentiellement pour s'amuser, pour se faire plaisir dans des réunions d'ensemble qui se tiennent lieu soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Il s'agit d'ailleurs d'une façon à peu près unique, d'une façon à peu près totale, que de chants traditionnels. Rares sont ceux qui aujourd'hui, il en existe encore pas mal cependant, sont capables d'improviser un chant. Autrefois, il y a encore 40 ou 50 ans, avant l'apport de la civilisation blanche, qui a été excellente d'ailleurs dans ce cas-là, mais pour la musique, elle a fait disparaître cette possibilité, ou presque, il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années, à peu près chaque Esquimau était capable d'improviser un chant. Plus ou moins bon, mais d'improviser un chant basé sur des paroles qu'on pourrait appeler des poèmes. Cette inspiration a, pas entièrement disparu, mais partiellement disparu aujourd'hui. Autrefois, ça répondait aux mêmes besoins de réunion, d'amusement intellectuel, et ça répondait aussi à quelque chose de tout particulier aux Esquimaux, une technique pour résoudre des problèmes qui par ailleurs sont résolus soit par la justice imposée de l'extérieur, soit par la lutte, le duel, soit même parfois par la guerre. Chez eux, quand deux hommes ont un différend, ils se provoquent en duel, mais le duel est un duel de chant. Alors pendant tout l'hiver, les deux adversaires improvisaient, ce n'est pas le terme, composaient un poème chanté dans lequel ils se moquaient de son adversaire. Et l'été venu, lorsque tous les Esquimaux se rassemblent, soit pour la pêche, soit pour la chasse, et surtout pour se retrouver au bout d'un long hiver où ils ont été séparés, lorsque les Esquimaux se rassemblent, eh bien, on sait que lorsque la lune sera pleine, un tel Maratsi et un tel Gaba vont se retrouver pour ce duel de chant. Tous les hommes et toutes les femmes les entourent, et alternativement, ils chantent en s'accompagnant du tambourin plat qui rythme le chant, Et c'est celui qui aura été le plus piquant, le plus sarcastique, le plus intelligent dans ses paroles et le plus nouveau dans sa musique qui sera le gagnant.
Paul-Émile Victor, il est ici un sujet qu'il serait intéressant d'aborder. Quelle était la religion des Esquimaux avant l'apport des Blancs?
Eh bien, je crois qu'on pourrait appeler cela le pré-animisme. Ils imaginaient que tout ce qui les entourait, c'est-à-dire plus exactement les diverses forces de la nature, était représenté par des êtres vivants prenant des formes diverses, parfois des formes humaines, ou des géants, ou des nains, ou des êtres hybrides, moitié homme, moitié phoque, moitié ours, moitié chien, qu'on appelle des toupilecs, bien d'autres encore, dont on pouvait se faire des alliés si on savait s'y prendre, ou dont on se faisait des ennemis si on ne savait pas s'y prendre. C'était une représentation. C'était en conséquence une représentation visuelle, alors qu'il ne fallait pas les voir, parce que quand on les voyait, on en mourait, une représentation visuelle, auditive, presque palpable, des forces de la nature, qui en effet, parfois sont leurs alliés et parfois sont leurs ennemis.
Et est-ce qu'ils ont fondu, est-ce qu'ils ont greffé, comme cela s'est passé partout, cette religion primitive sur la religion que nous leur avons apportée?
Certainement. Les Danois ont apporté le christianisme, le protestantisme, au Groenland, et ceci de façon extrêmement intelligente. Car ils n'ont pas dit « tout ça, c'est de la blague, nous vous apportons la vérité », ce que l'on a fait assez fréquemment ailleurs. Ils ont dit avec beaucoup d'intelligence ce que nous faisons maintenant, dois-je dire, grâce à l'apport d'ailleurs d'une façon générale de l'ethnologue. Ils ont essayé d'expliquer, et en particulier ils ont dit aux Esquimaux « mais oui, en effet, il est possible que les Toupilecs et les Tornartet, etc., et les Timotsites et les Ekridites, il est possible que tout cela existe. Mais si vous en étiez conscient, si vous les voyiez parfois et si vous les entendiez souvent, c'est tout simplement parce que la partie non visible, vous ne la connaissiez pas. Eh bien, voilà, nous allons vous expliquer. Il y a un dieu, il y a un diable. Et ce que vous voyez était ce que le diable vous faisait voir. Maintenant, nous allons vous apprendre ce qui est la vérité, et vous allez voir que tout cela disparaîtra et que vous aurez beaucoup moins peur dans la vie que vous avez eu peur jusqu'à présent. Et c'est petit à petit ce qui est arrivé.
Voyez-vous, Paul-Émile Victor, vous êtes en train de nous peupler cette espèce de désert de neige, car j'imagine que pour beaucoup d'auditeurs, les espaces polaires étaient jusqu'à présent des déserts inhabités. Mais vous nous donnez l'impression qu'on rencontre beaucoup de monde là-bas. Vous parliez même tout à l'heure de réunions d'Esquimaux.
Il est certain qu'on y rencontre beaucoup de monde. Il faut d'abord faire une grande différence entre l'Arctique et l'Antarctique. L'Arctique est habité. L'Antarctique est inhabité. Et jusqu'à preuve de contraire, a toujours été inhabité. Dans l'Arctique, il y a un certain nombre de populations mongoloïdes. En particulier entre le détroit de Bering et la côte est du Groenland, il y a les Esquimaux. Ils sont au nombre de 50 à 60 000 aujourd'hui. Sur une superficie immense. Ça représente, si je veux essayer de trouver un point de comparaison, ça représente la France, si la France était peuplée par 1000 habitants. Autrement dit, si la France avait 1000 habitants, il y aurait autant de Français en France qu'il y a d'Esquimaux dans le monde Esquimaux. C'est vous dire que cette foule dont vous parliez tout à l'heure, si elle existe concentrée à certains points, en réalité est tellement éparpillée que pour aller de l'une à l'autre de ces foules, il faut des kilomètres et des kilomètres, des jours et des jours, des heures en avion bien entendu seulement, mais en traîneau à chien quelquefois des semaines et des mois.
Mais est-ce que les villages esquimaux sont des villages à population nombreuse?
C'est très variable. Certains villages esquimaux ont une maison, avec une famille. D'autres, au contraire, ont 10, 20, 30, 40 maisons, avec une centaine de familles. C'est-à-dire que le village esquimaux peut très bien varier de 6 à 7 personnes, j'en ai connu un, on peut guère appeler ça un village, jusqu'à des concentrations, qui d'ailleurs se font de plus en plus grandes maintenant, autour de la boutique, qu'elle soit danoise au Groenland, canadienne dans l'Arctique canadien ou américaine en Alaska. Ou bien autour de certains points d'intérêt, des terrains d'aviation par exemple, comme il y en a maintenant de plus en plus dans l'Arctique.
Alors j'imagine que l'activité de ces populations est uniquement dirigée vers la chasse et la pêche.
Elle était uniquement dirigée vers la chasse et la pêche, mais étant donné l'envahissement des terres arctiques par nous hommes blancs, sous l'impulsion de certains problèmes économiques, aussi bien que militaires, il y a aujourd'hui une évolution extrêmement rapide. Et le problème est un problème grave pour ces populations, à tel point que, aussi bien le gouvernement danois au Groenland, que le gouvernement canadien dans le Canada arctique et le gouvernement américain en Alaska, depuis déjà plusieurs années, étudient ce problème pour trouver des solutions d'adaptation qui n'aient pas comme conséquence la disparition de ces populations. Au contraire, d'ailleurs, dois-je dire, depuis que, presque toujours, presque partout, pas partout, mais presque partout, l'apport de notre civilisation n'a fait qu'aider les Esquimaux à vivre. Effectivement. Un exemple précis au Groenland, lorsque les Esquimaux de la côte est du Groenland, Angmasalik, ceux chez lesquels j'ai hiverné, lorsqu'ils ont été découverts en 1885, ils étaient environ 400. Aujourd'hui, ils sont près de 1500. Le même phénomène se reproduit d'ailleurs ailleurs. Peut-être pas de façon régulière.
Mais cette évolution dont vous parliez, se traduit-elle par un changement dans le vêtement, dans la condition féminine, comme on le voit presque partout, où passent les Blancs?
Oui, bien sûr. C'est évidemment d'abord le premier signe, le vêtement.
L'alimentation.
L'alimentation aussi. Le vêtement, c'est pas tellement grave, quoique c'est bien désagréable de voir des Esquimaux habillés comme des mendigos, étant donné que leurs vêtements de peau de phoque résistent, alors que les vêtements de tissu ne résistent pas à ce qu'ils leur font subir. L'alimentation, c'est déjà plus grave. Ils sont habitués à une alimentation essentiellement carnée. Ils sont habitués à chasser, donc à une vie active. Remplacer ça, ce qui est à peu près inévitable aujourd'hui, par du pain, du riz, du beurre même, du sucre, etc., c'est tout de même en conséquence physiologique grave. Il y a autre chose. C'est qu'alors qu'ils n'étaient que des chasseurs et des pêcheurs, ou plus exactement, alors qu'ils étaient des chasseurs et des pêcheurs, ils ne deviennent plus que des ouvriers ou des gens qui, pas toujours, au contraire, ne généralisons pas. La grande majorité des Esquimaux, au contraire, sont restés encore ce qu'ils étaient autrefois, et ça grâce aux divers gouvernements qui ont bien compris le danger. Mais il y en a tout de même beaucoup qui deviennent des ouvriers, qui ne sont plus que des ouvriers. Et je veux dire que ce n'est pas péjoratif, c'est péjoratif pour eux, car leur vie n'a pas été ça. Leur vie était une vie de chasse et de pêche, une vie physique, dont ils ont encore aujourd'hui besoin, et qui souvent leur manque parce qu'il est plus facile, semble-t-il, de vivre près d'une station, ou en portant de l'eau, ou en sciant du bois, ou en même devenant charpentier. On gagne plus facilement, en échange, ce qui est nécessaire pour vivre.
Et la condition féminine, évolue-t-elle?
Dans le vêtement, essentiellement, oui.
La femme esquimaux se farde?
La femme est... Oui, j'ai vu des femmes esquimaux fardées, c'est exact. Mais oui, bien sûr. Mais ne généralisons pas. D'ailleurs, conclure cette partie de l'entretien, sur une note vraiment très intéressante et pas pessimiste, je voudrais vous raconter ce qui s'est passé pour les Esquimaux de Thulé. Vous avez entendu parler de la grande base aérienne de Thulé qui a été installée en 1951. Elle a été installée à 6 ou 7 kilomètres d'un petit village, le village de Thulé, millénaire presque, probablement, et qui s'appelle Thulé depuis Knut Rasmussen en 1910. Il était interdit aux soldats de la base de rendre visite au village. On évitait également que les Esquimaux ne fassent visite à la base et tout ça pour que les deux économies soient parfaitement séparées. Et aussi, tout cela en vue de la protection des Esquimaux mêmes. Au bout de 2 ans, le Conseil des chasseurs a exprimé le désir de quitter l'endroit où ils étaient. Le représentant danois de l'endroit, qui est un de mes amis, Mork Rasmussen, en a parlé avec le gouvernement danois, et qui a donné son accord et qui a dit « Si le Conseil des chasseurs de Thule désire changer de place, qu'ils choisissent l'endroit, on les aidera à se déplacer, on leur construira une nouvelle école, une nouvelle église et des maisons, car nous comprenons très bien leur désir. » Le Conseil des chasseurs a décidé de changer de place tout de suite. C'était au mois de mai 1953. Les Esquimaux ont pris leur traîneau, ils y ont mis dessus tout ce qu'ils avaient, y compris leurs femmes et leurs enfants, et ils sont partis vers le nord à 250 km pour s'installer à 250 km de la base aérienne qui était à 5 km de chez eux. J'avais un ami qui s'appelait Outak. Il est mort depuis, c'était un vieil homme de plus de 70 ans. C'était le seul survivant du groupe de 5 hommes qui ait jamais atteint le pôle Nord à pied. C'était l'un des 4 compagnons de Peary qui a atteint le pôle Nord le 6 avril 1909. Outak est mort l'année dernière. C'était un vieil homme, c'était une sorte de sage dans la tribu. Et je lui ai demandé pourquoi ils étaient partis. Il m'a répondu exactement ceci. Tu vois, nous sommes des chasseurs. Nous sommes faits pour chasser et pour pêcher. Nous ne sommes pas faits pour aller de l'autre côté du fjord et y ramasser ce que l'homme blanc jette, ce dont il ne veut plus. C'est d'une profonde sagesse. La vieille Cara, qui est devenue ma mère adoptive, en particulier lors de mon 2e hivernage, n'était pas tellement vieille que ça. Les femmes esquimaux vieillissent, vu de notre point de vue, très rapidement. À 50 ans, on peut considérer d'ailleurs que les hommes et les femmes sont des vieillards. Cara était la mère d'une jeune fille qui s'appelait Doumidia, dont je parle dans Boréal et dans Banquise. Je parle d'ailleurs de la vieille Cara aussi, puisque j'ai beaucoup d'affection pour elle. J'ai eu beaucoup d'affection pour elle, mais elle est morte en 1948. D'ailleurs, permettez-moi de faire une parenthèse. Mes amis esquimaux d'Angmasalik, que j'ai donc quittés en 1935, je les ai revus en 1951. Je suis allé à Mérir avec un Catalina à Angmasalik en 1951. Et je les ai tous revus, ou presque tous revus. Et je dois dire que dans l'ensemble, j'en ai retrouvé beaucoup, comme je les avais laissés, c'est-à-dire heureux. Quelques autres, beaucoup moins heureux. Et la jeune fille dont je viens de parler, Doumidia, mariée, remariée, avait 9 enfants, et malheureusement avait un mari paresseux. Et la description que je pourrais faire est relativement assez dramatique de cette famille de 9 enfants vivant sous une tente sans feu, sans rien. À tel point que, 3 jours plus tard, je suis revenu en avion d'Islande avec 400 kilos de vêtements que les Islandais m'avaient donnés, et non pas des souliers bas, mais des bottes et des vêtements chauds, et 400 kilos de vêtements auxquels nous avions ajouté 600 kilos de vivres de notre expédition. Et en faisant du rasmot, j'ai tout parachuté ça sur le village. Et j'ai su depuis que ça a servi pendant plusieurs années à vêtir la famille et à la nourrir. Cette parenthèse est en fait que je vais vous raconter donc 2 anecdotes à propos de Cara. Vous savez que les Esquimaux fument et chic. Le tabac a été importé par l'homme blanc il y a déjà un certain nombre d'années. Lorsque le tabac leur manque, ils tombent malades. Ils tombent surtout malades psychologiquement, dois-je dire. Lors de cet hivernage de 1936-37, où j'ai donc vécu dans cette famille esquimaux, où la vieille Cara était ma mère adoptive, nous sommes arrivés au bout de notre réserve de tabac à peu près au mois de mars. Depuis près de 15 jours, nous n'avions pas de tabac. Lorsque la vieille Cara est arrivée dans la petite maison que je m'étais construite de 2 mètres sur 2, où je n'habitais pas, mais où je travaillais, elle vient s'asseoir à côté de moi, et après un long silence, elle me dit quelque chose comme ça, « Vitu, Vitu c'est mon nom esquimaux, Vitu, tu veux me prêter ta pipe ?» Alors je l'ai regardé, je lui ai dit, « Mais je veux bien te prêter ta pipe, mais tu sais bien que nous n'avons pas de tabac. »« Ah oui, c'est vrai, dit-elle, mais je voudrais bien que tu me prêtes ta pipe. » Je lui ai tendu ma pipe. Alors, elle a sorti de son anorak une plume de corbeau, Et elle a commencé à nettoyer soigneusement le tuyau de la pipe, le trou du tuyau de la pipe, pour bien imprégner la plume de corbeau du jus qui était à l'intérieur. Et après avoir bien imprégné la plume de corbeau de ce jus, elle s'est mise à sucer cette plume de corbeau avec délice. La deuxième anecdote que je veux vous raconter est d'un autre ordre. Les femmes esquimaux, toutes les populations ont des positions de travail, de repos, qui varient d'ailleurs d'une population à l'autre, pas seulement les esquimaux, mais enfin les différentes tribus de différentes civilisations. Eh bien, les femmes esquimaux travaillent généralement debout, les jambes tendues, elles ont une certaine rétroversion du genou, penchées en avant et travaillant sur l'objet posé par terre. C'est une de leurs positions de travail. Debout, plié en deux, l'objet posé par terre, les jambes raides. Un jour, j'ai vu ma vieille Cara laver du linge dans une bassine, de mon linge, dans cette position particulière, debout, les jambes tendues, pliées en deux. Alors je lui ai dit, mais dis donc, c'est un peu fatigant cette histoire-là, je sais bien que vous avez l'habitude, mais tu ne crois pas qu'il serait plus simple de... Et j'ai pris la bassine, je l'ai mise sur une espèce de banc qui était là, à peu près à bonne hauteur. Alors elle s'est approchée, elle a commencé à laver le linge dans cette position, elle a dit, oh, mais en effet... Mais c'est beaucoup plus agréable, c'est bien moins fatigant, comme ça. Seulement 5 minutes plus tard, quand je suis revenu vers elle, elle était montée sur le banc.
En conclusion, Paul-Émile Victor, est-ce que le métier que vous avez choisi est un métier enrichissant et qui vous satisfait pleinement? Considérez-vous maintenant, au point où vous allez arriver, comment considérez-vous cette profession que vous avez choisie?
Je crois que la meilleure réponse que je puisse vous donner, c'est de vous dire la conclusion d'une... conversation que j'ai eue il n'y a pas tellement longtemps avec deux de mes amis, Maurice Herzog et Jacques Cousteau. Nous parlions de toutes sortes de choses et en particulier de ce sujet. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous recommencerions exactement de la même façon, en tenant compte bien entendu des expériences faites, mais si nous avions à recommencer, nous aurions la même activité.
Dans le cadre de l'émission Les chemins du jour, Luc Bérimont vous a présenté Paul-Émile Victor et les expéditions polaires. Un film enquête radiophonique réalisé avec le concours de Jacques Bureau et Francis Gastambide. Mise en onde, Bernard Gandré-Réti. Collaboration artistique, Hans Pies.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 19 août 1956 sur France 2 Régionale. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.